On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de confidence et on va parler ce soir grossesse et accouchement et plus exactement de tout ce que vous avez découvert pendant votre grossesse et dont on ne vous avait jamais parlé, des choses un peu rigolotes aussi qui vous sont arrivées et surtout des différentes façons d'accoucher, des projets d'accouchement aussi. Est-ce qu'on peut tout demander? Est-ce qu'on peut vraiment choisir d'accoucher chez soi? Est-ce qu'on peut refuser une péridurale, une épisiotomie, un déclenchement de son accouchement? 0810 055 056, on se dit tout. Si vous avez voulu accoucher différemment, si vous avez dû faire la guerre au monde médical pour accoucher à votre façon, si dans votre culture on n'accouche pas comme en France et si vous avez eu également un accouchement un peu épique, notre grand témoin ce soir c'est la sage-femme Anna Roy, auteure du livre Sage-femme dis-moi tout chez Le Duc Édition. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Alors vous répondez, j'ai noté, à 150 questions que toutes les femmes se posent sur la grossesse, à 80 questions sur l'accouchement et à 81 questions sur l'après-accouchement. Ça fait au total plus de 300 questions que se posent les femmes et elles se sont toutes au moins une fois posées cette question.
Au moins une fois, oui. Et encore, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il pourrait y en avoir 10 fois plus, presque.
On a l'impression que c'est naturel, une grossesse, un accouchement. Ça n'est pas tant que ça, vu les questions qu'on se pose.
Pas tant que ça du tout, même.
Et puis, vous le dites, chaque femme est différente aussi.
Totalement. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire, un nouveau vécu. Oui, à chaque fois, c'est différent. Oui.
Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en France, choisir la façon dont on a envie d'accoucher?
À peu près, oui et non. Il faut être très informé, quoi. Mais on peut, oui.
On peut le faire.
On peut, de plus en plus en tout cas.
On va parler de grossesse, on va parler d'accouchement. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé pour vous. C'est pas une émission réservée aux femmes. Les hommes, bien sûr, ont leur rôle dans les 9 mois de la grossesse. Leur rôle aussi le jour J, le jour de l'accouchement. Est-ce qu'il faut être là, pas être là? On va en parler d'ailleurs avec vous. Racontez-nous votre histoire. On va voir ce soir, on vous attend pour parler de votre accouchement différent. Et parce que vous étiez à l'étranger, parce que c'était votre demande. De votre grossesse, un peu rock'n'roll, des surprises aussi. 0810 055 056, on est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
L'accouchement et de façon plus globale la grossesse, c'est le sujet dont on se dit tout ce soir avec vos témoignages au 0810 055 056. Si vous avez accouché différemment, un accouchement plus nature, moins de césarienne, moins de péridurale, moins d'épisiotomie, un accouchement avec une liberté dans la position, un accouchement ailleurs qu'à la maternité. On peut parler de la maison, on peut parler aussi des maisons de naissance. Et puis peut-être que votre accouchement ne s'est pas du tout passé comme vous l'aviez imaginé. On en parle ce soir en compagnie d'Anna Roy, auteure de Sage-femme, dis-moi tout, chez Le Duc Édition. On parle de l'accouchement, mais tout ce qu'il y a avant, la grossesse, l'annonce, comment vous avez vécu ces 9 mois. Il y en a pour certaines, c'est génial, pour d'autres, c'est un vrai calvaire. Vous commencez d'ailleurs votre livre comme ça, Anna, vous dites finalement, les femmes, elles sont toutes différentes. On adore son corps ou on le déteste, on angoisse pour un rien, où on se sent hyper puissante. Enfin, vraiment, vous avez fait les cas extrêmes parce qu'il n'y a pas de règle finalement quand on est enceinte.
Il n'y a aucune règle. J'ai eu des patientes extrêmement différentes au cours de ma carrière. Je continue à en avoir. Et ça va effectivement de la nana super relax, hyper baba cool, à la méga stressée, qui a des checklists pour toutes les questions. Donc tout est possible, ouais. On rencontre de tout. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs.
Et on parle aussi des hommes ce soir. Vraiment, hein, je le dis, je le répète, cette émission n'est pas réservée aux femmes. La preuve sur le Facebook de France Bleu, c'est Chris qui nous a laissé un message et nous dit « Bravo à la maman de ma fille, 4,925 kg, ça ne s'invente pas mais ça se vit. Accouchement horrible, épisio, manque d'oxygène pour la maman, le bébé qui ne respire pas. Plus affolement dans la maternité. Bref, avec cette émotion, je me suis trompée de porte et je me suis retrouvée juste en face de madame. Et j'ai toujours cette image dans la tête qui me hante à chaque fois. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, faut-il que les hommes rentrent en salle d'accouchement ou pas? On vous la pose aussi cette question?
On me la pose très souvent et je pense que la réponse est oui, mais il faut en avoir bien discuté en couple avant. Je pense que tout le monde n'est pas capable d'avoir son mari à ses côtés et chaque mari ou père de l'enfant n'est pas capable d'être présent en salle de naissance. Je crois qu'il faut savoir conjuguer avec chacun et chaque histoire est différente.
Il faut vraiment que ce soit préparé. Quand on prépare l'accouchement, on prépare aussi cette phase-là.
C'est-à-dire qu'après, il y a des hommes qui restent traumatisés assez longtemps, donc je pense qu'il vaut mieux en avoir discuté, quoi.
Oui.
Pour éviter les mauvaises surprises. Parce qu'après, il y a des hommes qui, pour être clair, peuvent pas toucher leur femme pendant plusieurs années. Donc ça vaut quand même cool de se poser la question à l'avance.
Un petit peu quand même. Les hommes doivent être présents tout au long de la grossesse à leur façon. Comment ils peuvent être présents avec un truc qui est pas dans leur ventre, qui bouge pas, qui pousse pas, qui peuvent pas sentir eux? Comment ils font? Comment ils l'expriment aussi?
Bah, je crois que c'est assez compliqué pour eux. Alors il y en a qui sont méga investis, puis d'autres qui sont pas investis du tout, mais je pense que c'est compliqué. Effectivement, souvent ils réalisent juste quand il y a le bébé sur le ventre de leur femme que, bah, en fait, ça y est, ils sont devenus pères. Et même s'ils s'investissent énormément pendant la grossesse, je trouve que souvent, en fait, ils se rendent pas bien compte de ce qui va leur arriver. Mmh. Et c'est pour ça que c'est trop adorable de les voir découvrir leur enfant au moment de la naissance, quoi. C'est absolument charmant.
Votre livre est découpé avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement, par trimestre aussi. C'est des phases importantes. Il y a des rendez-vous importants. Il y a des rendez-vous imposés, on va dire. Et puis il y a tout ce qui se passe entre les deux.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est un peu schématique, effectivement, d'avoir découpé le livre comme ça. Mais en même temps, c'était nécessaire et c'était beaucoup plus pratique pour le livre. Mais oui, il y a quand même des choses qui se retrouvent pour chacune des femmes, même si elles sont toutes très différentes.
Alors, je le disais, pratiquement 300 questions auxquelles vous répondez dans ce livre, avec des questions assez incroyables. On vous les a au moins posées une fois, ces questions-là? Genre, est-ce que je peux encore m'épiler, même si je suis enceinte?
Celle-là, on me l'a posée 200 fois.
C'est dingue.
Mais oui, celle-là, on me les a toutes posées au moins une trentaine de fois. Sinon, je les aurais pas mis dans le livre. Mais oui, on me pose des questions, même très farfelues, parfois.
Et on a l'impression aujourd'hui que les femmes sont beaucoup plus au courant de ce qu'elles doivent manger, pas manger. C'est pas un peu trop, n'a pas un peu trop aseptisé la grossesse? Genre, attention, faut pas faire ça, attention, faut pas toucher le chat. Enfin, quoi que vous le dites dans le livre, le chat, c'est pas très grave, hein, c'est la litière.
Oui, exactement. Non, mais je crois qu'effectivement, on est dans un monde assez aseptisé, que les femmes ont peur de tout. Et elles ont raison sur certaines choses et un peu tort sur d'autres. Je pense qu'il faut aussi vivre ce moment qui est quand même, pour certaines en tout cas, assez génial. Et donc, il faut pas se laisser empoisonner la vie, effectivement.
C'est pas une maladie.
Non, c'est absolument pas une maladie. Sauf pour certaines. Mais non, je veux dire, il faut vivre normalement, le plus normalement possible pour que ça se déroule au mieux.
Et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse en parler aussi avec vous qui nous écoutez ce soir sur France Bleu. C'est le but, hein, dont se dit tout, c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de vivre aussi de l'intérieur avec vous, avec vos histoires, vos témoignages. Venez nous rejoindre et puis venez nous raconter comment s'est passée votre grossesse à vous. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués, des moments surprenants, des moments où vous avez carrément paniqué? Et puis comment s'est passé ensuite l'accouchement? Est-ce qu'il y avait un vrai projet d'accouchement? Est-ce que vous avez voulu accoucher autrement? Est-ce que cet accouchement a été un peu plus rapide que prévu et pas forcément à la maternité? 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Devenir maman, c'est se poser une multitude de questions et ne pas avoir toujours les réponses. Des nausées aux vergetures, de la péridurale à l'épisiotomie, je vous mets le pire. Hein. Racontez-nous votre grossesse, ses surprises, ses découvertes et votre accouchement différent, épique, pas prévu. On se dit tout, vous donne la parole ce soir au 0810 055 056 avec la sage-femme Anna Roy, auteure du livre Sage-femme, dis-moi tout aux éditions Le Duc. Et c'est Muriel qui est avec nous pour démarrer cette émission en Seine-Maritime. Bonsoir Muriel.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Muriel.
Alors vous avez eu, vous dites, un accouchement extraordinaire.
Ah oui. Vraiment, j'en ai gardé un souvenir émerveillé et ravi. Et ben, j'ai eu une grossesse super de toutes les manières parce que elle est arrivée assez tard. Je désespérais d'avoir un bébé. Et quand je me suis sentie enceinte, j'ai eu un message qui me disait que non, que le laboratoire c'était négatif, et je pleurais et je disais à mon mari: mais je te dis que je suis enceinte.
Qu'est-ce que vous sentiez? Ça c'est intéressant, vrai, Muriel. Quand vous dites je sentais que j'étais enceinte, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous sentiez? Comment vous le sentiez?
Oh, c'était un état d'euphorie et la présence.
Ah oui. Ça arrive, ça, Anna. On peut très vite, on peut savoir.
C'est comme il y a des femmes qui sont persuadées que elles attendent un petit garçon, une petite fille, et on peut pas savoir pourquoi.
Oui,
mais
je sais que c'était une petite fille.
Voilà.
Et c'était une petite fille d'ailleurs.
Non, aucun doute. Ouais.
Bah, c'était très amusant parce que dès le départ, je sais que c'était une petite fille, et c'était merveilleux. Ma mère, qui était femme extraordinaire, m'a offert, et je l'ai toujours d'ailleurs sur ma table de nuit, une petite boîte en forme de cœur avec une petite souris. Et la petite boîte était rose. Et je lui dis: comment tu sais que c'est une fille? Ben, elle me dit: j'ai juste à regarder ton ventre.
Ça marche toujours, ça, la forme du ventre?
Ah bah, ça, c'est apparemment, ça a bien marché. Hein. Et croyez-moi, je vous y dirai après.
Alors et Anna, donc, moi j'ai envie d'avoir l'avis d'une sage-femme quand même. Est-ce que effectivement la taille du ventre c'est une légende ou est-ce que
Écoutez, moi je me suis essayée à ce jeu et j'ai souvent perdu. Alors je pense qu'il y a certainement des expertes, mais en tout cas je fais pas partie de ces femmes-là qui arrivent.
Ça ne veut rien dire en fait.
Non, moi en tout cas j'ai jamais réussi à le faire. Bon. Pourtant je me suis essayée avec des copines, hein, mais. Échec à chaque coup presque.
Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas la forme.
Oui, et puis c'est ce qu'elles disent. Moi, quand une femme me dit, mais je suis sûre que c'est un garçon, je les crois par contre sur parole.
Ouais. Et Muriel, vous avez accouché, je veux dire, un accouchement classique, comment ça s'est passé ?
Non. D'abord, je suis très tonique, je suis quelqu'un qui a été danseuse pendant très longtemps. Et j'ai senti les prémices de l'accouchement, c'était très folklorique. Mon mari est rentré de son travail en deux chevaux. On s'est fait Elbeuf-sur-Andelle-Rouen en deux chevaux, derrière les tracteurs, les petits camions, les machins.
Il y a une histoire là, oui.
Oui, et j'avais une amie adorable qui m'avait prêté son studio à Rouen. Et quand j'avais faim, alors mon mari était parti, je me rappellerai toute ma vie forcément, des viennoiseries. Et la viennoiserie n'est pas pensée. Donc, j'ai dit, il faut vite aller à la clinique. Donc, on est allé à la clinique. Et à la clinique, bon, ils étaient pas pressés, les gars, les filles. Et le temps qu'il aille chercher les bagages, une infirmière est passée, elle m'a regardée, elle dit, ouh là là, on a deux qui m'ont poigné par les ailerons. Et moi, je me sentais très bien, j'avais besoin de personne pour marcher. Et elles m'ont emmenée dans une chambre. Et mon mari m'a rejoint dans la chambre. Et à un moment donné, Marie, je lui dis, tu sais, le bébé, il avance. Hein. J'étais très calme, hein, les respirations. Alors bon, j'avais fait du yoga, donc les respirations, je les gérais bien. Et il me dit, je vois les cheveux. Oh, je dis, tu vois les cheveux, il faut absolument appeler, etc.
Et bon, accouché toute seule, en fait.
Très comique, il dit, ma femme accouche. Et au bout du fil, on disait, bah oui.
Oui, il pensait que voilà que oui, il y avait encore du temps.
Les cheveux, alors là, ça a été panique à mort, les femmes et les enfants sur le pont, et ils m'ont emmenée dans la salle d'accouchement. Et à la suite, le médecin de service se lavait les mains. Et Rémi me dit fais attention, vas-y doucement. Alors poussez, Madame Tesson, mon mari. Non, surtout pas. Alors il avait un pull, je me rappelle encore, gris à rayures, gris et bleu. Il avait retroussé ses manches et le bébé est sorti. D'ailleurs, j'ai même pas eu besoin de pousser, pas vraiment, quoi. La tête d'abord et puis le petit derrière après, sans aucune forme de souffrance ni rien.
Mais alors moi j'ai quand même une question. Ça c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que
Anna Roy. C'est pas incroyable.
Bah, c'est-à-dire que par rapport à.
C'est tout, je les faisais assises.
Par rapport à ce qu'on nous raconte généralement sur l'accouchement, moi j'ai l'impression, Anna, mais vous allez me dire si c'est ça ou pas, Muriel est hyper détendue, grossesse hyper détendue, elle arrive à la maternité hyper détendue. Être détendue, ça aide à avoir un accouchement plus cool ?
Ah oui, assurément, ça c'est même prépondérant dans la façon dont va se passer l'accouchement. Mais enfin Muriel, vous avez quand même eu beaucoup de chance et je crois que les choses se sont vraiment très bien passées. Malheureusement pour les auditrices qui écoutent ça et qui sont enceintes, je peux pas vous garantir que ça se passera comme ça à chaque coup, mais c'est vrai que le yoga et puis arriver détendu avec oui ça aide, c'est évident.
Bon bah écoutez, c'est incroyable ça. Muriel nous disait qu'elle avait accouché assise, c'est une des positions qu'on recommandait à une certaine époque, c'est plus le cas aujourd'hui.
Bah ça dépend des maternités, dans la maternité dans laquelle je travaille, on continue à faire les accouchements en toutes les positions et je pense que c'est une très bonne chose dans les limites de la sécurité médicale évidemment, mais je pense que c'est très bien d'accoucher dans pas forcément allongé avec les pieds dans les étriers.
Ça c'est bien pour
ça c'est bien
pour l'obstétricien.
Oui, et pour la sage-femme qui effectivement est confortablement installée sur un petit tabouret et voilà.
Mais pour la patiente,
c'est pas
l'idéal.
Ouais, c'est pas l'idéal.
Merci Muriel d'être venue nous raconter votre accouchement à la cool. On a bien compris, hein, détendu. C'est pas le cas pour tout le monde et peut-être que vous avez vécu un accouchement un peu plus rock'n'roll, un peu plus agité. On parle d'accouchement, de grossesse aussi. Racontez-nous ces 9 mois, les différentes phases. Comment vous vous êtes sentie? Est-ce que vous avez aimé être enceinte ou pas du tout? On a le droit de pas aimer ces 9 mois-là. On a le droit de pas aimer son corps non plus. On a le droit de pas aimer se sentir un peu bizarre. Eh bien, venez nous en parler. On vous attend au 0810 055 056, grossesse et accouchement. C'est le sujet dont se dit tout ce soir.
le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Grossesse et accouchement, c'est le sujet dont se dit tout. Vous pensiez que ça se passerait calmement, comme tout le monde. Et puis en fait, vous êtes allé de surprise en surprise parce qu'on ne nous dit pas toujours tout. Et puis on parle de l'accouchement aussi ce soir et particulièrement si vous avez voulu accoucher différemment ou alors vous n'avez pas eu le choix. Votre accouchement a été différent parce qu'un peu trop rapide ou pas au bon endroit. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec la sage-femme Anna Roy qui est notre grand témoin. Et on parle beaucoup aussi de grossesse ce soir, de comment vous l'avez vécu, de comment vous vous êtes senti, de ce que vous avez ressenti. C'est important aussi, c'est pas que du médical, c'est pas que ce qui est écrit dans les livres, il y a aussi ce qu'on ressent et qui est très personnel. On va accueillir Marianne qui est en Alsace. Bonsoir Marianne.
Bonsoir Vanessa. Bonsoir.
Alors vous, il vous est arrivé un truc assez incroyable le jour de votre accouchement quand même.
Oui, alors j'ai accouché normalement, très rapidement. Et la sage-femme me dit qu'il se passe quelque chose avec l'enfant, au niveau de la bouche. Alors moi, dans ma tête, sur la table d'accouchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être, quoi? Alors en premier lieu, j'ai pensé à un bec de lièvre, voilà, bien sûr. Et donc elle allait nettoyer, laver le bébé, elle allait l'habiller, le peser, tout ça. Et quand elle est revenue, elle me donne l'enfant dans mes bras. Puis je regarde et effectivement, je vois rien. Donc je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle me dit, non, c'est à l'intérieur de la bouche. D'accord, donc je touche et effectivement, il y avait une petite excroissance au niveau de la gencive. Donc elle me dit, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Donc voilà, et j'en ai parlé au pédiatre, et le pédiatre me disait, écoutez, allez voir le chirurgien dentiste, je ne sais pas ce que c'est, allez le voir. Donc lui-même, il m'a dit, à mon avis, ça doit être une dent ou quelque chose. Ah bon, une dent ou un morceau de peau qui a trop poussé, en fait. Et donc, j'allaitais. Et puis, un jour, au bout de 3 semaines, je me dis, mais c'est pas possible, ça me pince, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Et en fait, la dent a percé. Donc, il s'est retrouvé, à un mois, il avait une dent.
Ouais. C'est assez étonnant, mais c'est pas impossible en fait, Anna.
Non, c'est pas impossible. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est pas impossible, non, tout à fait.
C'est vrai qu'on a une image un peu du stéréotype du bébé qui naît, qui a pas beaucoup de cheveux, qui est tout mignon.
Oui, qui est parfait nécessairement.
Qui est parfait, et parfois on peut être surpris. Les bébés sont pas toujours beaux à la naissance. Ils peuvent avoir une énorme touffe de cheveux et on s'inquiète. On se dit oh là là, est-ce qu'il va avoir des cheveux comme ça toute sa vie?
Il faut rassurer les futures mamans. Les bébés changent beaucoup au cours des premières heures et au cours des premiers mois, parce qu'effectivement il y en a qui sont assez frais, elles se disent mon Dieu mais il est horrible, et en fait non, parce que toutes les femmes trouvent pas leur bébé beau, hein. Ça c'est une grande idée reçue.
Mais on a le droit de le dire, on a le droit de le ressentir, en tout cas on peut en parler à la sage-femme, échanger.
En tout cas je sais pas aux autres sages-femmes, mais à moi elles m'en parlent très facilement, elles me disent oh là là mais pourquoi il est comme ça, est-ce qu'il va changer, donc souvent je les rassure la plupart du temps.
Oui, il vient de faire un long voyage quand même.
Exactement, sur les têtes particulièrement allongées c'est par exemple tout à fait normal.
Merci Marianne pour votre témoignage, on va quitter l'Alsace pour les Hauts-de-France, c'est Charlotte qui est avec nous, bonsoir Charlotte.
Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Vanessa et bonsoir.
Alors vous c'est plutôt rigolo, vous avez accouché sur votre lieu de travail. Et pour cause, vous travaillez ?
Dans une maternité.
C'est plus facile.
Donc, oui, comme je disais, c'est accoucher, en fait, être rassuré, parce qu'on accouche un petit peu, entre guillemets, en famille, puisqu'on est avec les collègues, on peut même limite choisir son équipe. Hein. C'est, on est rassuré par cette présence des deuxièmes mamans, on va dire, quand on est dans l'euphorie de l'accouchement. Quoi. Donc, ouais, c'est vrai que c'est plaisant. Quoi. Même tout au long de la grossesse, bah on peut être rassuré sur des petites choses sans devoir appeler son gynécologue ou sa sage-femme.
Vous faisiez quoi dans cette maternité, Charlotte ?
Moi, je suis auxiliaire de puériculture.
D'accord. Et même quand on est dans le milieu, on se pose des questions.
Voilà. Encore plus, on va dire.
Oh là là. C'est le cas pour vous, Anna. Hein, parce que
j'étais une patiente extrêmement pénible.
Ouais. Alors que vous faisiez ça tous les jours avec d'autres patientes.
Ah oui, mais j'étais horrible. Je posais 15 questions à la minute, je flippais pour tout.
Voilà, exactement. C'est pire. C'est pire. Et puis, on est toujours tenté de demander à une collègue de se faire une petite échographie quand on ne le sent pas bouger ou des choses comme ça. Mais ça permet de le voir un peu plus souvent que les autres mamans qui le voient qu'une fois par mois ou une fois par trimestre.
C'est sûr.
C'est plaisant, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est, jamais rassuré, et encore plus dans le métier. On se pose encore plus de questions, on veut bien faire et au final, on est une maman, et c'est ce que me disaient mes collègues. Attention, tu es auxiliaire de puériculture, mais là, tu as eu Julien, et tu es maman, et c'est pas du tout pareil, tu vas paniquer pour d'autres choses, et Alors que à mes mamans, quand elles étaient à la maternité, il n'y avait pas de soucis, je les conseillais, mais on est perdu, quoi. On est vite perdu.
Et alors vous vouliez pas de péridurale au départ?
Moi non, j'ai peur des piqûres en fait, donc je m'étais préparée avec ma sage-femme en disant, ben voilà, en faisant la sophrologie, elle m'avait préparée.
Mais bien j'avais sûr.
Oui, j'avais même préparé en fait l'homéopathie, tout ça. Et quand j'ai eu des contractions, enfin on m'a fait un décollement en fait la veille, et j'ai eu des contractions directement toutes les 5 minutes à 4 heures du matin. Donc du coup, on est parti assez vite à la maternité. Mon copain me disait, bah, tu veux qu'on y aille? Non, j'ai rendez-vous à 8 heures, je voudrais pas que... Bah, on sait que les collègues, la nuit, elles peuvent dormir un petit peu s'il y a personne, donc je voulais pas les réveiller, j'étais gentille. mais en fait, non, j'ai pas pu attendre et on est parti avant. Et quand je suis arrivée, mes collègues m'ont dit, tu veux la péridurale? Et je disais, non, oui, non. Parce que non, c'est vrai que la souffrance, je n'aurais pas pu accoucher sans péridurale. Péridurale, c'était un bonheur, quoi. Donc, j'ai béni l'anesthésiste.
Bah, c'est vrai que ça existe aujourd'hui. Ce serait dommage de s'en passer si on a envie. Enfin, voilà, c'est vraiment un choix, là encore. On peut décider de partir, aller non pas de péridurale, et puis au moment où ça arrive, comme Charlotte, on a le droit de la réclamer à corps et à cri.
Évidemment, heureusement. Et l'inverse d'ailleurs, il y a des femmes qui disent « Ah non, mais moi, c'est sûr, j'aurai une péridurale. » Et puis finalement, qui la demandent pas. Enfin, tout est possible.
On n'est pas égal non plus face à la douleur.
Oui, et puis c'est surtout les circonstances de l'accouchement qui sont différentes pour une d'une femme à l'autre. Quand accoucher en 20 heures, c'est pas la même chose qu'accoucher en 3 heures d'un tout petit bébé ou alors d'accoucher d'un gros bébé. Tout ça, ça rentre en ligne de compte.
Mmh. Et comment ça va aujourd'hui, Charlotte? Il a quel âge ce bébé?
3 mois et demi.
Ah oui, tout petit.
Oui, il y a eu des phases où c'est vrai que ben, tout ce qui est colique, tout ça, on est un petit peu perdu.
Hein.
Ouais, voilà, donc c'est même dans le métier, c'est un petit peu dur, voilà. mais là, ça va mieux, ça a été soigné un petit peu les coliques, tout ça, donc je reprends plaisir, on va dire, à être maman, parce que c'est vrai qu'il y a eu des passages là où, comme on dit, c'est très dur, quoi. On est un petit peu tout seul, même si on est soutenu par la famille, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très durs, et ça, il faut le savoir, ça. Moi, même dans le métier, comme je disais, moi je ne le savais pas, mais maintenant, quand je vais reprendre, je vais le dire aux mamans qu'il y a des passages durs et qu'il ne faut pas qu'elles restent toutes seules, quoi.
Mais c'est vrai qu'on ne nous dit pas toujours les trucs pas rigolos, quoi. On ne nous parle pas de ces choses-là, on nous dit c'est... Enfin, pas aujourd'hui, mais je repense à des livres qu'il y avait il y a 10, 15, 20 ans. C'était « C'est merveilleux d'accoucher, c'est un bonheur incroyable, vous devenez maman, tout est magique ». Non, c'est pas tout magique, Anna.
Non, c'est pas tout magique. Et puis surtout, je ne sais pas pourquoi, mais en France, on ne parle jamais de l'après. Et alors qu'en fait, c'est effectivement, moi j'appelle ça il y a plusieurs personnes qui appellent ça le 10e mois de la grossesse, mais en fait c'est le 10e mois qui est le plus dur, et le premier mois avec le bébé, même pour des gens qui, comme nous, comme Charlotte et moi, étions professionnels, c'est vraiment dur le premier mois. Donc non, tout n'est pas rose, loin de là.
On est fatigué, on peut être énervé.
Exactement. Et puis,
on a peur de pas bien faire.
Exactement, ouais, non, c'est le premier mois, et même les quelques premiers mois sont quand même assez durs.
Et là, les nuits, ça va, Charlotte?
Eh ben, on va croiser les doigts qui vous entendent. Ça fait deux nuits c'est un allaitement maternel, donc ça fait deux nuits en fait qui s'endort vers 22h, 23h et qui se réveille à 5h.
Pas mal.
On va croiser les doigts.
Oui, oui, oui. J'espère qu'il nous entend. Ouais, on vous envoie plein de bonnes ondes pour que ça continue, Charlotte.
Ouais, j'espère bien.
Merci pour votre appel et votre témoignage, Charlotte.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
La grossesse, l'accouchement, on en parle ce soir sur France Bleu avec vous au 0810 055 056. Racontez-nous un petit peu, comme Charlotte, ces choses que vous avez vécues dont on ne vous avait pas forcément parlé, les découvertes que vous avez faites, les différents états dans lesquels vous étiez pendant votre grossesse. Et puis l'accouchement, s'il a été un peu différent, épique, rock'n'roll ou au contraire très nature, parce qu'on en parle aussi de plus en plus, hein, les maisons de naissance, les accouchements à la maison. Venez nous rejoindre et venez en parler. C'est Anna Roy qui est notre grand témoin, auteur de Bienvenue au monde, c'était le premier, et de Sage-femme, dis-moi tout, c'est chez Le Duc Édition.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
On parle de la grossesse et de l'accouchement ce soir dans On se dit tout. La grossesse avec ses 9 mois où on se pose beaucoup de questions, où on ressent beaucoup de choses, où on adore ou alors on déteste être enceinte. Et puis l'accouchement, ce moment qu'on a préparé, qui se passe pas toujours comme on l'avait préparé, comme on l'avait imaginé d'ailleurs. Venez en parler avec nous et avec Anna Roy qui est notre grand témoin, sage-femme et auteur du livre Sage-femme, dis-moi tout. Et c'est Maude qui est avec nous depuis l'Alsace. Bonsoir Maude.
Oui, bonsoir.
Alors vous avez pour votre deuxième enfant fait vraiment un projet de naissance, un projet de grossesse et d'accouchement.
Oui, oui, effectivement. Alors en fait, j'avais accouché de mon premier enfant et il y avait une salle qu'il appelait les salles nature. Donc où il y a la possibilité de faire le travail dans une baignoire. Mmh. Voilà, donc pour le premier, j'avais fait tout le travail dans l'eau. Et au moment de l'accouchement, on m'a sorti de l'eau et c'était assez brutal. Et du coup, j'ai très mal vécu l'accouchement, enfin la fin de l'accouchement. Et du coup, pour la deuxième, je me suis dit, je vais chercher le gynécologue qui m'accouchera dans l'eau.
Vous avez pris les choses à l'inverse. De quoi j'ai envie? Qui va pouvoir m'aider?
Voilà,
c'est comme ça.
Donc j'ai trouvé le gynécologue qui me suivait sur le projet. Voilà, après, sachant qu'il m'avait dit, il faut que les conditions soient réunies pour que ça puisse se faire le jour J. Et du coup, il m'avait vraiment préparé en me disant que, voilà, une fois que l'enfant naît, il reste pas longtemps dans l'eau non plus, et il y a le papa qui prend le relais au moment où moi je dois sortir de l'eau et tout. Et du coup, on avait préparé le projet ensemble, avec les sages-femmes aussi de la clinique. Et donc, arrivé le jour J, donc j'ai présenté mon projet de naissance à la sage-femme qui était de garde. Et là, elle a paniqué.
Elle n'avait pas l'habitude ?
Ben, elle m'a dit que je pouvais faire le travail dans l'eau et tout, mais plusieurs fois, elle est revenue me voir. Elle m'a dit, si vous êtes sûre que vous ne voulez pas sortir de l'eau, vous êtes sûre que vous ne voulez pas la péridurale, vous êtes sûre. Voilà. Donc, par la suite, je me dis heureusement que c'était la deuxième, parce que je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Parce que c'est vrai que ça aurait été le premier, je pense, j'aurais écouté la sage-femme, je serais sortie de l'eau, j'aurais eu une péridurale, enfin voilà. Mais voilà, j'ai tenu tête, elle est revenue me voir trois fois en me disant « Vous êtes sûre ?» Je fais « Oui, je suis sûre. »
Voilà. Anna, ça peut se comprendre, cette réaction de la sage-femme, où finalement, quand le projet de naissance est inscrit noir sur blanc, quand il n'y a pas de complications, quand tout se présente bien, normalement, la sage-femme doit suivre...
Oui, mais ça peut se comprendre, parce qu'il faut quand même avoir l'habitude de pratiquer des accouchements dans l'eau. Moi, j'ai l'habitude, comme pas mal de mes consoeurs là où j'exerce, mais il faut avoir l'habitude, il y a une vraie formation à avoir. Et donc, je comprends, pour une sage-femme qui en fait un tous les 36 du mois, bah, c'est un peu angoissant, quoi.
Donc, on se dit, si elle peut changer d'avis...
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas par méchanceté, quoi. C'est vraiment, à mon avis, parce qu'elle devait pas se sentir très sûre d'elle, en fait.
Pas très à l'aise avec...
Il faut l'être. Ouais. Parce que d'autant plus dans un accouchement dans l'eau, il faut être capable de réagir en fonction très vite.
Le choix de Maud, le projet de naissance, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus ?
Oui, souvent, effectivement, de plus en plus, on a des projets de naissance qui nous sont présentés. D'autres qui sont tout à fait, certains qui sont tout à fait recevables, et puis d'autres qui sont un peu plus étonnants avec des demandes irréalistes.
Genre de quoi, façon, par exemple?
Il y avait des femmes, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui veulent mettre des bougies partout, or on a des prises à oxygène. On va pas faire sauter la maternité pour... pour la joie d'avoir des bougies, puis après, bon, y a toutes sortes de choses, mais il y a des choses qui sont réalistes et d'autres pas du tout, quoi.
Mmh. Merci beaucoup, Maud, pour votre appel, votre témoignage, et bravo d'avoir tenu tête et d'être allée jusqu'au bout dans votre projet de naissance. On va accueillir tout de suite Marie-Claude en Bretagne. Bonsoir, Marie-Claude.
Bonsoir.
Alors vous, c'est rocambolesque, votre histoire.
Je vais vous raconter, moi, mon accouchement. Donc, je devais accoucher le mois précédent parce que, d'après le médecin, ça faisait la date. La date était au mois précédent. Donc, le bébé s'est pas présenté. Donc, on a provoqué l'accouchement. Le bébé ne s'est pas présenté. On m'a fait rentrer chez moi. Et puis, on m'a dit, revenez dans 15 jours. Si dans 15 jours, le bébé n'est pas né, on provoquera l'accouchement. Et là, on vous garde. Le matin de ce 15e jour, en me levant, bonheur, j'ai eu des contractions. Mais c'était en plein mois de février, il neigeait, mais comme pas possible. Mon mari était gendarme secouriste de haute montagne. Et pas de chance, les gendarmes n'étaient pas là, ils étaient tous de l'autre côté d'une avalanche qui était de l'autre côté d'un tunnel. Le village était protégé par deux tunnels, en fait, et des deux côtés, il y avait une avalanche. Donc impossible de passer. La sage-femme qui normalement était au village était de garde à l'hôpital de l'autre côté du col du Lautaret, dans une petite ville qui s'appelle Briançon. Et donc il y avait personne pour m'accoucher au village. Alors ma mère qui était là était très inquiète. Et puis au bout d'un moment, on vient nous annoncer que le col côté Lautaret était, ça y est, on pouvait passer. Au même moment, de l'autre côté, ils ont nettoyé aussi. Et là, un car est arrivé et j'ai dit à ma mère, je prends le car. Bon, le problème, c'est que mes contractions étaient vraiment là, très régulières. Et plus on avançait, plus les contractions se précipitaient. Et le chauffeur du car, à qui je n'avais pas dit que j'étais sur le point d'accoucher, prenait tranquillement son temps en faisant deux fois le tour des villages qu'on rencontrait jusqu'à Briançon pour ramasser le maximum de skieurs pour les stations. Et quand on est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, quand il m'a donné ma valise, je lui ai dit, dépêchez-vous, je vais accoucher. Il a levé les bras au ciel en criant, oh Madonna! Et il m'a planté là, il est parti avec le car. Et moi, j'avais une vingtaine de marches à descendre dans la neige et tout avec ma valise, et sentant que j'allais accoucher. Quand je suis arrivée dans l'hôpital, la sage-femme m'a examinée et elle me dit, oh, vous êtes tranquille, vous en avez encore pour 2-3 heures. J'ai dit, non, je pense que je vais accoucher tout de suite. Elle me dit, non, vous allez accoucher dans 2-3 heures. Au bout de 10 minutes, j'ai commencé 10-15 minutes, je l'ai rappelé parce que je chantais, moi j'étais sûre que la tête du bébé était en train de passer. Et elle est arrivée, quand elle a regardé, elle me dit, oh, bah oui, vous êtes en train d'accoucher, vite, elle m'a mis sur un brancard, elle a couru. Alors c'était vraiment amusant, on aurait cru être sur une planche à roulettes. Elle m'a couru jusqu'à la salle d'accouchement et au moment où elle m'a posé sur la table, le bébé est né tout de suite, quoi. Elle a juste eu le temps de l'attraper. C'était une petite fille, donc, et ça s'est pas arrêté là. Parce que 3 jours après, normalement, j'aurais dû rentrer chez moi. Eh ben, pas de chance, il neigeait encore de façon vraiment impressionnante. On m'avait proposé de me ramener en hélicoptère parce que le col était bloqué encore des deux côtés, le village des deux côtés. Et ben, pas possibilité avec l'hélicoptère parce qu'il neigeait tellement qu'il ne pouvait pas passer. Et en fin de compte, bon, bah, les chasse-neige le lendemain, j'ai fait donc, non, 2 jours de plus même, j'ai fait d'hôpital.
Parfois, il vaut mieux rester 2 jours de plus et rentrer en toute sécurité. Dans l'histoire de Marie-Claude, moi, je me pose une question. On aurait peut-être pu imaginer un accouchement à la maison. Ça arrive aussi. Alors, ça se prépare, mais quelquefois, ça se prépare pas non plus.
Oui, alors, des fois, ça se prépare, puis des fois, ça se prépare pas. Effectivement, ça dépend. Mais il y a de plus en plus de femmes qui souhaitent accoucher à domicile et qui le réalisent.
Il n'y a pas beaucoup de sages-femmes qui le font quand même.
Non, très peu. Ouais, très, ouais. Très peu.
On le dit dans votre livre, c'est une histoire d'assurance, ça coûte très cher.
Voilà, il faut pouvoir s'assurer et en fait, on ne peut quasiment pas s'assurer pour faire les accouchements à domicile. Donc, c'est donc les sages-femmes qui le font souvent ne sont pas assurées.
C'est quoi le profil des femmes aujourd'hui qui accouchent à la maison? C'est leur premier, deuxième enfant?
Ça peut être leur premier ou un autre enfant. C'est des femmes qui ont des fois peur de l'hôpital, mais des fois, tout simplement des femmes qui ont envie d'être chez elles pour donner naissance. C'est un mouvement qui progresse, mais il y a les maisons de naissance qui sont une forme d'intermédiaire entre le domicile et l'hôpital, qui est un bon compromis.
Donc on est encadré, mais pas médicalisé.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Merci beaucoup Marie-Claude d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. Et jusqu'à 22h, on vous écoute, on vous attend avec vos histoires à vous, votre grossesse, comment elle s'est passée pendant ces 9 mois, quels moments ont été forts, quels moments ont été angoissants, quels moments ont été un petit peu bizarres pour vous peut-être, pour vous ou pour votre conjoint. Les hommes sont aussi les bienvenus. 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Mais ce soir, on parle de grossesse et d'accouchement. Selon sa culture, son pays, on n'accouche pas de la même façon, pas dans la même position, pas selon le même rituel. Mais est-ce que c'est facile d'ailleurs de faire respecter cette envie-là, ce droit à la différence aujourd'hui dans nos maternités françaises? Eh bien, on en parle avec vous au 0810 055 056. Si vous avez accouché différemment, ailleurs, si votre accouchement s'est passé de façon complètement différente de ce que vous aviez imaginé. Et puis avant l'accouchement, il y a bien sûr les 9 mois, les classiques 9 mois de grossesse, hein, ça peut être un petit peu moins, une semaine de plus. Mais on parle aussi de tout ce qui se passe dans la tête, dans le corps, de tous ces changements, de toutes ces humeurs aussi auxquelles on n'est pas forcément préparé. Comment vous avez vécu votre grossesse? Est-ce que vous avez aimé être enceinte? Est-ce que vous avez détesté ça? On a le droit de se le dire aussi, et puisqu'on se dit tout, c'est le moment ou jamais. C'est Anna Roy qui est avec nous, auteure du livre « Sage-femme, dis-moi tout ». Et s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent là en ce moment, c'est peut-être le moment justement de nous rejoindre pour nous dire un petit peu comment vous vivez les choses et comment vous vous sentez tout simplement à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si on devait vous dire, voilà, racontez-nous ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que c'est facile de l'expliquer? Peut-être pas d'ailleurs, Anna.
Non, je ne pense pas.
Avec des mots comme ça.
C'est hyper compliqué même.
Genre, voilà. C'est hyper compliqué, tu ne peux pas comprendre.
Oui, c'est plutôt ça.
Il ne faut pas que les hommes s'inquiètent s'il y a des sauts d'humeur, justement.
Ah non, il ne faut pas s'inquiéter, c'est non, hyper mais faut fréquent. Dire, ah oui, il faut prévenir les gens, parce qu'effectivement, des fois, ça fait bizarre. Hein. On pleure facilement, on s'énerve facilement, on rigole facilement, c'est un peu...
Déstabilisant.
Un peu déstabilisant, on a l'impression d'être... en face d'une semi-folle.
Je suis juste enceinte, chérie, voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien. Roxane est avec nous dans la Nièvre. Bonsoir Roxane.
Bonsoir.
Alors vous, au départ, vous ne vouliez pas de péridurale et vous vous retrouvez avec une césarienne.
C'est ça.
Oula, gros, grand écart là.
Oui, mais très bien parce que préparer, enfin voilà, la grossesse se passe très très bien, complètement épanouie, je fais tous les cours qu'il faut, les respirations, on m'apprend, enfin voilà, en fait des problèmes de dos, donc je veux pas de péridurale à cause de ça, un petit peu peur, et puis voilà, je me dis allez, j'ai mon enfant, je suis prête jusqu'au bout, sans douleur, enfin voilà, avec les respirations et compagnie, et puis oui, il y a personne à ce moment-là, mon petit garçon, il respire, enfin le cœur, problème de cœur, donc du coup péridurale, donc on m'endort, et puis Isaac arrive 30 minutes après, donc tout se passe très bien, enfin l'accueil se passe très bien, toute l'équipe, c'était génial, enfin vraiment super accueil.
Vous avez eu une césarienne du coup, Roxane ?
Oui, oui. Et ça s'est très bien passé, enfin voilà. C'est dommage parce que voilà, c'est on se prépare à accueillir l'enfant, on s'imagine plein de choses et puis en réalité, bon voilà, enfin, mais après ça s'est très très bien passé.
Après Anna, il y a des cas où il n'y a pas le choix, il faut y aller quand l'enfant est en danger, quand la maman est en danger.
Évidemment, il y a des fois, il faut vraiment pas hésiter. C'est une question de vie ou de mort.
On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de déclenchements de grossesse, d'accouchements, pardon, de césariennes aussi, chose qu'on voyait qui était plutôt exceptionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y a des césariennes un peu à la chaîne ?
Si, il y en a même dans certaines structures vraiment trop. Je crois qu'on a la césarienne un peu facile, surtout dans certaines structures, oui, évidemment. Dans les cliniques privées en particulier, où on est un paiement à l'acte, on a tendance à faire plus de césariennes que dans les maternités.
On découvre le pourquoi du comment.
Bah oui,
ça rapporte plus.
Ça rapporte plus et c'est beaucoup plus rapide.
Mais on a le droit de s'y opposer, de dire.
Évidemment,
après, c'est compliqué,
je crois qu'il faut.
On sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur.
Il faut pas hésiter à prendre un deuxième avis, parce que effectivement, il y a des fois où des équipes disent que le bébé est trop gros, alors qu'en fait le bébé est pas plus gros qu'un autre. Donc moi à mon avis, il faut rester vigilant et savoir demander et prendre d'autres avis, comme on ferait pour un traitement autre d'ailleurs.
On est maître de son corps encore.
Heureusement.
Vous dites, hein, dans votre livre, c'est très bien expliqué, il y a différentes classifications des cliniques. Il y a la classe 1, c'est la clinique, on va dire, basique, où on fait des accouchements normaux. La classe 2, la classe 3. C'est-à-dire que très vite, on sait, selon le déroulé de notre grossesse, on sait à peu près où on se situe.
Oui, on sait à peu près où on se situe en fonction de ses antécédents. Et puis après, les choses peuvent fluctuer pendant la grossesse. C'est-à-dire que si les choses commencent à se passer mal, eh ben, vous serez transféré dans une maternité de type 3.
Il faut pouvoir réanimer l'enfant, s'occuper,
voilà,
de la maman,
s'occuper
néonatologie, j'ai mal dire.
Ouais, non, mais c'est ça,
néonat,
exactement.
C'est plus facile.
Ouais, exactement. Oui.
Et Roxane, il a quel âge votre petit garçon aujourd'hui ?
Alors, il a 6 ans.
Ouais, d'accord.
Il va très bien et il a bien grandi. Enfin, voilà, on a allaité. Là, c'est pareil. Au niveau de l'allaitement, le fait que j'ai été endormie complètement. On m'avait dit surtout ne l'allaitez pas tout de suite. Enfin, voilà. Puis je l'ai allaité et puis j'avais une sage-femme en fait, donc Marie-Ange. si elle écoute, voilà. Donc Marie-Ange, qui était ma sage-femme qui me disait, écoutez, voilà, on dit plein de choses, mais le lait est important. Elle m'avait donné plein d'informations concernant mon lait, et puis notamment dès le début, elle me disait surtout n'hésitez pas. Donc j'ai allaité Isaac jusqu'à ses 17 mois. Enfin, j'ai commencé à ses 14 mois à commencer à lui donner des petites compotes de carottes, mais voilà, ça a été très très bien et une petite astuce pour les mamans qui veulent allaiter, pour savoir si, parce que moi j'ai eu des coups de panique et donc j'ai appelé Marie-Ange qui, elle était très sympathique, je l'ai appelée alors qu'elle était à la retraite pour lui demander, je lui dis écoutez, je ne comprends pas, il pleure, voilà, je ne sais pas si mon lait est encore bon, puis elle me dit écoutez, ce que vous avez à faire, c'est prendre un peu de lait, le mettre dans un verre, le mettre à température ambiante, et vous voyez, donc la crème qui se fait, donc le lait tourne, donc ça fait du lait, et la crème, et puis un peu d'eau, donc on voit la quantité d'eau, et donc là on sait si on doit allaiter plus longtemps ou moins longtemps son enfant.
L'allaitement, c'est pareil, c'est une des grandes questions. Je suis sûre, Anna, qu'une fois qu'elles ont accouché, les femmes ne vous parlent que de ça. Si elles doivent y aller, si elles culpabilisent parfois de ne pas y arriver, il y a beaucoup de questions autour de l'allaitement.
Ah oui, autant qu'avec la péridurale. C'est la grande question avec les anti, les pros, les... Tout le monde se bat autour de cette question. C'est un peu comme l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus du XXIe siècle.
Mais pareil, on peut
siècle.
Arriver avec des convictions, de se dire, mais moi, j'ai pas du tout envie d'allaiter, de se retrouver face à une sage-femme qui va insister un petit peu, ou à l'inverse, on a très envie d'allaiter, on n'y arrive pas, et une sage-femme qui va dire, oh, mais c'est pas grave, il y a des
Oui, malheureusement, c'est parfois assez fréquent. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui ont du mal à faire fi de leur propre expérience et qui, du coup, orientent un peu leur discours. Mais c'est pas non plus la majorité. Mais effectivement, c'est difficile de se détacher de sa propre expérience.
En même temps, on reste quoi, en moyenne. Trois jours maintenant en maternité. Est-ce qu'en trois jours, on a le temps de savoir si on allait bien? C'est
non.
Compliqué.
Non.
Mais oui, c'est ça.
C'est que les démarrages, ça se fait. Alors, c'est vrai que les démarrages sont importants, mais ça se passe aussi après, quoi, à domicile.
Beaucoup de choses après. D'où l'importance du livre, de tout ce qui se passe après, de toutes les questions auxquelles vous répondez.
Oui, et puis
dans
comme le
livre.
Disait Roxane, c'est d'avoir une sage-femme à la maison, c'est vachement pratique.
Il y a quelques visites possibles, mais on se retrouve vite tout seul quand même.
Ah, mais les femmes écrivent des centaines de textos, hein, vous savez, elles sont pleines de ressorts. Là, par exemple,
j'en ai une dizaine. Vous ne pouvez pas imaginer un nouveau métier sur l'après, le suivi, l'après, l'après naissance
Ah oui, si. Mais la sage-femme, c'est vraiment la personne de choix. Hein.
Mais jusqu'à quand on a le droit de faire appel à une sage-femme?
Oh, bah
après
oui, effectivement, c'est un mois et demi. Mais oui. Après, ça peut durer même un peu plus longtemps avec la rééducation du périnée, mais on peut en avoir une pendant un an, quoi, grosso modo. Puis maintenant qu'elles font le suivi gynéco, en plus, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sage-femme tout au long de sa vie.
Pas mal. Ouais, c'est bon
c'est
de le savoir. C'est bon de le savoir. Ouais. Merci beaucoup, Roxane, d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. Jusqu'à 22h, vous avez la parole. On parle de grossesse, on parle d'accouchement ce soir et on parle de vous surtout. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a agacé? Qu'est-ce qui vous a énervé? Est-ce qu'on vous a compris du début à la fin de votre grossesse? Est-ce qu'il y a eu un projet de naissance, un accouchement qui a été vraiment pensé? Ou est-ce que vous trouvez que ça a été très compliqué ces 9 mois, l'accouchement, l'après? Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Allez, vous avez encore 30-35 minutes pour nous rejoindre sur France Bleu au 0810 055 056. On parle de la grossesse, on parle de l'accouchement ce soir. La grossesse avec tout ce qui se passe pendant ces 9 mois, physiologiquement bien sûr, mais aussi moralement. C'est pas toujours évident de devenir maman, de se préparer comme ça pendant ces 9 mois, de voir son corps changer, de sentir que ça change aussi avec les humeurs, les sautes d'humeur, on en parlait tout à l'heure. Venez nous raconter comment vous le vivez, vous, au 0810 055 056. Peut-être que ce qui vous énerve aussi, c'est les réflexions des autres, c'est les copines qui ont réponse à tout, la belle-maman qui veut mettre son grain de sel absolument partout, jusque dans la salle d'accouchement. Il y a peut-être de ça, on va en parler bien sûr avec vous ce soir. Et puis l'accouchement, est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui d'accoucher comme on en a envie? Venez nous rejoindre au 0810 055 056. C'est Anna Roy qui est notre grand témoin, auteur du livre Sage Femme, dis-moi tout, chez Le Duc Édition. On parle beaucoup aussi de ce qu'on ne doit pas faire. C'est fou la liste des choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit pas manger, qu'on ne doit pas boire quand on est enceinte. Ça peut faire peur à certaines femmes. Elles arrivent aussi avec leur liste de questions parfois.
Elles arrivent avec leur liste de questions et oui, c'est bourré d'interdictions une grossesse, ça c'est sûr. Et y en a plein qui nous mentent hein, d'ailleurs, qui nous disent oui, je fais bien comme ci, je fais bien comme ça. Et puis on sait que évidemment elle respecte pas tout à la lettre.
L'alcool, le tabac.
Alcool, tabac, alimentation, sport. Enfin, la liste est longue. Hein, c'est
le
évident.
Sport, tiens, parlons-en. On a l'impression qu'on doit arrêter toute activité sportive pendant la grossesse, et en fait, pas du tout.
Non, pas du tout.
Ça dépend. Si on est sportif de haut niveau, on fait attention.
Ça. Et puis ça dépend des sports. Effectivement, c'est pas le moment d'aller faire de l'escalade et. Enfin, ça dépend des sports, quoi.
Des sports doux, c'est possible.
Des sports doux, yoga, pilates, marche, natation.
On peut en parler à sa sage-femme, sa gynéco, justement, si on a des doutes. Enfin,
c'est... Ah, mais il faut nous demander.
On peut tout aborder avec vous.
Tout.
La sexualité,
tout.
Aussi.
Tout. On
là
écoute
aussi,
tout,
y a beaucoup
on entend tout. Énormément. Mm-hmm. Évidemment, c'est un sujet important dans la vie des couples et ils n'hésitent pas à nous questionner là-dessus, hein, évidemment.
C'est normal.
Sur ce qu'ils ont droit ou pas, ou quoi, ou comment.
C'est normal.
Exactement.
Josette est avec nous en Dordogne. Bonsoir, Josette.
Bonsoir.
Vous avez eu un premier accouchement très rapide. Vous dites, j'ai rien senti du tout. Et vous en avez eu un.
Rapide, facile. Ouais. Je sentais simplement des petits chatouillis. Si j'avais pas perdu le bouchon muqueux, je pense que je pouvais poser l'enfant.
Sans péridurale, sans rien.
Ce qui m'est arrivé. Oui, oui, tout à fait.
Pas d'incroyable.
Je suis arrivée à la maternité, la dilatation était totale, on m'a vite mis dans une chambre. Enfin, j'ai accouché dans l'instant et j'attendais toujours. J'étais terrorisée pourtant, j'étais pas du tout détendue comme l'ont dit d'autres témoignages tout à l'heure. J'avais très très peur et l'enfant est sorti et je me suis dit mais c'est quand qu'on a mal.
C'est pas mal pour un premier, on va dire. C'est un peu déstabilisant quand même, hein, mais bon.
Je suis partie à la maternité, je suis arrivée une demi-heure après, c'était fini quoi.
Il y a eu un deuxième accouchement ?
Il y a eu un deuxième accouchement, j'ai eu deux contractions.
Ouais.
Et, ben... et l'enfant est sorti, j'ai éternué un demi-coup, le médecin m'a dit « stop, on pousse plus » et il faisait pourtant 4,2
kg. Et, ben... et un troisième accouchement ?
Et donc pour le troisième, qui était souhaité vraiment vraiment, mais je, à force de vraiment vraiment le souhaiter, je m'étais tout bloquée. Le jour où j'ai repris un travail à temps plein, où j'ai enfin renoncé à cet enfant en me disant, bah, tant pis, t'en as deux, ils sont beaux, ils sont mignons, etc. Tant pis, t'en auras pas de troisième. 6 mois après, j'étais enceinte.
Et là, après ?
Et là, j'avais 43 ans passés. Mmh. Donc, avec un suivi, mais une grossesse qui s'est passée très, 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 très bien.
Ça, c'est bien d'en parler, Josette. Je fais une petite parenthèse parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se posent des questions après 40 ans. Il y a des années, on se disait, oh mon Dieu, après 40 ans, c'est très dangereux. Aujourd'hui, c'est pas très dangereux. C'est un peu plus suivi, c'est tout.
Oui, c'est ça. Il y a un tout petit peu plus de suivi. On est plus vigilant sur certains points, mais en fait, ça change rien.
Jusqu'à quel âge on se dit, allez, on peut y aller sans se prendre trop la tête, sans se poser trop de questions?
Moi, je dirais, c'est un peu absurde de dire ça, mais il n'y a pas d'âge. À partir du moment où on est enceinte et que, quel que soit l'âge qu'on a, et bien écoutez, moi j'avais une patiente là, la semaine dernière qui avait 49 ans et qui se portait comme un charme. Et c'était une grossesse pas prévue, elle était soi-disant ménopausée, elle était ravie et ça lui donnait un super coup de peps d'avoir un petit bébé dans ses bras.
Vous, 43 ans, Josette, est-ce que là, vous vous dites, c'est peut-être la dernière fois que je vais mettre un enfant au monde
Absolument, c'est la dernière fois, oui.
Parce et donc on prépare les choses différemment.
Jeune, il y en aurait peut-être eu un quatrième, mais après bon, faut être raisonnable. Mais et ça s'est très très bien passé. Et une grossesse à cet âge-là, c'est merveilleux parce qu'on n'y a rien de problème. Il n'y a pas de problème. L'enfant, il pousse comme un champignon. C'est il n'y a pas de souci comme se font les jeunes mamans pour une dent qui sort, une joue qui est rouge, l'enfant qui n'a pas bien mangé, l'enfant qui n'a pas bien dormi. Il n'y a pas de problème.
Mais pendant votre grossesse, il n'y a pas eu de problème non plus. Tout était parfait.
Ouais. Et donc, c'est le même obstétricien qui m'a accouché des trois. Et là, je lui ai demandé si les deux aînés pouvaient assister à l'accouchement.
Ils avaient quel âge alors, vos enfants ?
10 et 12 ans. Ma fille avait 12 ans, mon fils avait 10 ans. Et il a été, le médecin, il a été emballé par l'idée, vraiment, ça, c'était un médecin assez avant-gardiste.
C'était une demande de vos enfants, Josette ?
Oui, je leur avais demandé avant, oui. Et si vous voulez, le fait que cet enfant naisse, nous étions tous les quatre, ça a été merveilleux.
Alors moi, ça demande explication quand même, Josette. Comment on gère des enfants dans une salle d'accouchement à un moment donné ?
Alors comment on les gère ? Parce qu'on les prépare. On ne met pas comme ça, à brûle pour point, deux enfants dans une salle d'accouchement.
Oui.
Donc ils ont suivi la grossesse. Ils ont eu des livres appropriés, des encyclopédies de leur âge et appropriés pour savoir comment on fait un enfant, comment naît un enfant, et des livres adoptés pour eux. Ils ont eu une encyclopédie, je me rappelle plus du nom, mais sous forme de film, qui montrait le travail de la maman, le ventre et tout, et comment ça se passe. Et ils m'ont accompagnée à toutes les visites avant l'accouchement, quoi. Mmh. Et le médecin, à chaque fois, leur expliquait, leur disait comment ça allait se passer. Et ils savaient qu'on pouvait éventuellement les mettre dehors parce qu'il y avait des choses qui pouvaient se passer, mais que ce n'était pas forcément grave. On leur avait tout expliqué. Et tellement bien que quand ça a été fini, ils ont dit « Oh ben c'est tout ça, un accouchement ?»
Ils étaient bien préparés.
Parce qu'ils étaient très très bien préparés.
Ils étaient comment ? Ils n'étaient pas, en face de vous, Josette ?
Si.
Ah oui, ils ont vraiment vu...
Avec le papa, si.
Oh, moi,
avec le papa,
fou.
Il leur a dit, on va regarder la tête, les cheveux, etc. Et vu comment s'étaient passés les deux accouchements précédents, mon médecin m'a dit, on prend pas grand risque, parce qu'en principe, ça va se passer de la même façon. Ça aurait été un accouchement difficile, c'était hors de question. Mais ça s'est passé comme les deux précédents, et c'est un souvenir merveilleux. Et c'est un lien entre les trois enfants qui est extraordinaire.
Ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui, vos grands?
Ils ont 36, 34 et 25.
Et vous en reparlez parfois de ce moment particulier, quand même?
Ah oui. Ah oui, 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 c'est quelque chose de très, très fort.
C'est très fort, c'est pas permis à tout le monde et c'est pas évident non plus pour le corps médical. Enfin, je sais pas, Anna, si on vous disait aujourd'hui, j'aimerais que mes enfants de 10 et 12 ans assistent à l'accouchement, comment vous verriez les choses, vous?
Je sais pas, on ne mettrait pas en tout cas devant le fait accompli, il faudrait que j'y réfléchisse longuement. En tout cas, on n'a pas ce genre de demande et en tout cas, en France, dans la plupart des maternités, c'est évidemment interdit, la présence des enfants est interdite en salle de naissance. Pour des raisons de sécurité. Puis après, il faut réfléchir quand même à l'avance, parce que un enfant, c'est des images qui peuvent être dures et rester longtemps dans la tête des enfants, puis qu'ils deviennent des adultes. Donc moi, je sais pas, je me pose des questions.
Oui, ouais, c'est vrai. Enfin, moi, c'est l'image. Hein. Je me dis,
oui, c'est ça.
10 ans, 12 ans, c'est
quand
jeune,
on voit que ça
même,
traumatise hein. Des hommes de 40 ans, il faut peut-être réfléchir avant de mettre des enfants de 10 ans.
Oui, oui, oui. Mais bon, c'était un choix, un vrai projet
oui,
familial.
Oui, tout à fait. C'est intéressant.
Josette. Merci, Josette, d'être venue témoigner sur France Bleu. Et jusqu'à 22h, on vous écoute nous parler de votre grossesse, de nous parler de votre accouchement. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la grossesse, sur tout ce qui se passe, sur toutes les questions que vous vous posez. J'aimerais bien que d'ici 22h, on ait même une femme enceinte qui nous appelle, qui nous raconte un petit peu comment vous vivez ça en ce moment même, puisqu'on est vraiment dedans. Comment vous le vivez? Comment vous ressentez les choses? Comment les autres le vivent aussi? Il n'y a rien de pire que l'entourage qui donne mille et un conseils dont on n'a absolument rien à faire. Hein, c'est vrai qu'il faut d'abord s'écouter soi, Anna.
Ah oui, tout le monde vous donnera des conseils. Alors là, pour le coup, la grossesse, c'est le sujet important. Donc, tout le monde vous donnera son avis, la boulangère, en passant par la belle-mère, en passant par tout le monde.
Il y a ceux qui veulent toucher aussi, toucher le ventre.
Ça, je trouve ça strictement insupportable. Oui, le ventre d'une femme enceinte devient un bien public. Alors, tout le monde y va de sa petite main. C'est assez déplacé, je trouve.
Oui. On peut faire pareil, nous aussi. Hein.
Oui.
De toucher d'autres trucs aussi, si on veut. On est cap, hein.
On peut toucher les fesses, on peut aller loin comme ça.
Bah oui, après tout, vous touchez le ventre, on peut toucher ce qu'on veut, nous aussi. Venez nous raconter ce que vous avez détesté pendant votre grossesse, que vous avez adoré, au contraire, ce qui vous a dérangé, les questions que vous vous êtes posées, les questions auxquelles vous n'aviez pas forcément les réponses. 0810 055 056 jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Et jusqu'à 22h, on se dit tout sur votre grossesse, sur votre accouchement, avec vos témoignages au 0810 055 056. Je dis votre grossesse, votre accouchement, c'est peut-être celui de votre conjointe, celui de votre femme. Hein. Les hommes, vous êtes les bienvenus aussi. Vous avez le droit de vous exprimer sur ce que vous aussi, vous avez ressenti pendant ces 9 mois, sur comment on s'est occupé ou pas de vous aussi le jour de l'accouchement. Notre grand témoin ce soir est sage-femme, c'est Anna Roy. Et elle vient de sortir le livre « Sage-femme, dis-moi tout », réponse à plein de questions. J'en ai listé plus de 300 avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. C'est chez Le Duc Édition et Juliette est avec nous maintenant dans le Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Juliette.
Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir.
Soyez la bienvenue Juliette. Alors vous avez vécu une première césarienne assez traumatique. Hein.
Voilà, vraiment traumatique, assez douloureuse, avec une césarienne qui était absolument pas préparée. Donc j'attendais un petit garçon estimé à 5 kilos. Bon, finalement, il faisait pas 5 kilos, il faisait un petit peu moins. Mais il s'avère que j'avais un bassin assez étroit. Donc, l'obstétricien a quand même voulu faire une voie basse. Donc, il s'est un petit peu acharné pendant plusieurs jours. Donc, finalement, ça a fini en césarienne avec mon petit garçon qui a pas supporté l'atterrissage, comme on dit, et qui a dû être transféré en néonate. Donc ça a été assez violent au niveau psychologique. Hein. J'ai mis une paire de mois, même une bonne année à me remettre un petit peu de cette séparation brutale. Donc quand je suis tombée enceinte de ma petite fille, j'avais un projet de naissance qui était très carré. Je voulais à tout prix avoir une voie basse. J'étais même prête à accoucher à la maison parce que ça avait tellement été instrumentalisé à l'hôpital que voilà, j'avais l'impression que ça m'avait été un petit peu volé, j'avais pas du tout été active dans cet accouchement. Mon mari n'était pas présent en plus parce qu'on est parti en urgence en salle d'opération. Donc j'avais vraiment blindé ça, j'ai changé de maternité, je suis tombée sur quelqu'un de très 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 humain. Un gynécologue de Lille, je sais pas si je vais peut-être pas le citer, mais qui a vraiment pris en considération avec une super équipe de sages-femmes mon projet de naissance. Bon, malheureusement, la voie basse n'était pas possible parce que j'avais un bassin trop étroit, j'avais une césarienne assez fraîche, et puis Julia, je savais pas que c'était encore une petite fille, parce qu'on avait gardé le sexe secret. Était estimée à 4,5 kg. Elle était également en siège, donc un diabète gestationnel, insuliné, il n'y avait vraiment rien d'optimiste pour une voix basse. Donc on a travaillé ensemble au sein de la maternité, donc de la clinique du Bois, ce projet de naissance par césarienne. Et le jour J, donc j'ai...
Là, c'était complètement différent.
Ah ouais, j'étais préparée parce que voilà, on a travaillé ça sur plusieurs séances. En plus, la maternité de la clinique du Bois, ils ont des sages-femmes qui sont spécialisées dans le projet de naissance par césarienne. Donc il y a vraiment des sessions pour les mamans qui vont accoucher par césarienne pour les préparer, pour travailler ça avec elles, parce que bon, voilà.
Qu'est-ce qu'on prépare, Anna Roy, qu'est-ce qu'on prépare quand Juliette nous parle de préparation à la césarienne? C'est génial parce qu'on se dit finalement on est quand même acteur de son accouchement.
Eh ben oui, c'est vachement important. Ben on explique exactement la façon dont vont se passer les choses, on prend du temps pour répondre à leurs questions et ça change vraiment la donne. Après, quand elles, pour le vécu de la césarienne, c'est vraiment beaucoup mieux.
Et pour le bébé aussi, c'est mieux.
Et pour le bébé aussi, oui. On peut leur dire, les bébés à l'avance, qui vont naître par césarienne.
On peut leur expliquer. Ça a été le cas pour vous, Juliette?
Ben, tout à fait, parce qu'il y a eu un détail anodin qui m'a même fait pleurer lors de la préparation. Alors, quand je suis partie pour mon petit garçon en urgence, j'avais l'impression de tout ressentir. J'ai même été terrifiée quand ils ont commencé. Et on m'a dit, mais en fait, vous allez sentir des choses. Ce sera pas douloureux, mais vous allez ressentir des choses. Et je me suis dit, bon, d'accord. Alors, ben, on y va. De toute façon, il fallait faire confiance. J'étais obligée, mais... En sachant tout de A à Z, je vous dirais que je suis... Et puis surtout la présence du papa. Alors ça a été... je crois que c'est une chance énorme d'avoir pu être avec mon mari, même pour l'arachis. Enfin, ça a été très important. Lui a été très investi. Il avait toute sa place dans cette super équipe. Donc je suis arrivée là, alors bien sûr, inquiète, comme... mais très rassurée. Et puis... Enfin voilà, je monopolise beaucoup de temps, mais je voudrais juste dire qu'elles m'ont permis, le gynécologue m'a permis de me réconcilier avec la naissance parce que malgré que ce soit dans un bloc opératoire, malgré que au départ donc il y avait un champ stérile, dès que la petite ouverture a été faite, ils l'ont baissée. Et j'ai pu pousser comme une voix basse. Ils m'ont fait pousser comme un accouchement. Et j'ai tendu les bras pour attraper ma petite fille. Et je l'ai eu tout de suite en peau à peau. Alors on a découvert le sexe de ma petite fille, Julia. Du coup, c'est sorti de la bouche de mon mari qui m'a dit, bah voilà, c'est une petite fille. Et c'était pas juste sur une échographie. C'était vraiment.
En vrai, ouais, mais c'est beau. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça sur une césarienne.
C'était vraiment magnifique.
Bon là après c'était préparé aussi, on savait que ça allait être une césarienne. Voilà. Très souvent la césarienne, enfin très souvent non, mais ça arrive que c'est du dernière minute, on se dit falloir provoquer la naissance, là il faut y aller vite.
Oui, c'est de la dernière minute, mais il y a des équipes qui font vraiment l'effort de faire les choses comme elles ont été dites là à l'instant. Je crois que c'est effectivement, ça arrive et c'est bien. Il faut encourager ce genre d'initiative.
Ouais, c'est bien de pouvoir en parler aussi ce soir. Merci beaucoup Juliette pour votre témoignage, pour votre appel, pour ces deux expériences très différentes. Une première un peu beaucoup même traumatisante et puis une seconde césarienne qui se passe vraiment bien, qui est préparée, qui est un vrai projet de naissance. Jusqu'à 22h, vous avez la parole. Venez nous parler de votre grossesse, de votre accouchement, de la grossesse de votre femme. On peut aussi avoir un homme pour finir cette émission. Ou une future maman qui nous écoute, qui est un petit peu stressée, paniquée, qui comprend pas trop ce qui se passe. C'est dans sa tête et dans son corps. 0810 055 056. On se dit tout jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Grossesse et accouchement, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous ce soir en compagnie de notre grand témoin Anna Roy, auteur de Sage-femme, dis-moi tout. Et c'est Julia qui vient de nous rejoindre depuis la Loire. Bonsoir Julia.
Oui, bonjour.
Alors vous avez un message pour toutes les femmes qui attendent un bébé. Il ne faut pas trop stresser.
Bah non, et surtout pas.
Surtout pas. Ça a été cool pour vous, les 9 mois de grossesse, l'accouchement?
Bah, les 4 derniers mois, c'était un tout petit peu dur parce qu'il pousse un tout petit peu sur les côtes, mais bon, autrement, il était adorable.
Et ça s'est tout bien passé. Vous n'avez pas eu à un moment donné des désagréments pendant ces 9 mois de grossesse?
J'ai eu un désagrément parce que je suis tombée dans le jardin en allant chercher les œufs chez les poules. Et voilà, je suis tombée et donc du coup, le lendemain, je le sentais plus bouger. J'ai eu un petit coup de flip.
Oui.
Donc je me suis dit, je rappelle les pédiatres, voilà, pour qu'ils me disent ce qui se passe. Il me dit « Venez vite ». Donc ça, là-dessus, ils étaient absolument extraordinaires.
Et vous avez été rassurée?
Bah, disons qu'ils étaient particulièrement rapides. Ils mm-hmm. m'ont dit « Venez tout de suite, il faut pas attendre. Si vous le sentez plus, c'est qu'il y a un hic. »
Vous étiez à combien de mois à ce moment-là?
J'étais à 6 mois.
6 mois, oui. Mm.
Donc, on est arrivé. Il était prêt à sortir, quoi. Donc, j'étais un tout petit peu, en détresse quelque part. Donc, je suis restée un certain nombre de jours à l'hôpital pour que les médecins me suivent, qui était particulièrement agréable et gentil.
Et vous avez pu aller jusqu'au bout de votre grossesse ou finalement votre enfant est arrivé plus tôt?
Oui. Sauf que c'est lui qui a décidé de la sortie.
Ah oui.
À un moment donné, parce qu'il venait en siège. Donc, et comme moi, je suis une fille de médecin, donc mon papa, il était pédiatre. Et c'est moi qui tapais ses rapports de médecine pour qu'il obtienne ses références au niveau du médical. Donc, je connaissais tout par cœur.
Ouais, vous saviez que ça serait pas un accouchement classique.
Je savais très bien que c'était pas une bonne idée de l'accoucher en tant qu'il vienne en siégeant.
Ça, je me suis posé la question déjà, quand l'enfant se présente en siège, on peut imaginer un accouchement par voie basse ou c'est forcément césarienne?
Ah oui, oui, bien sûr, on fait beaucoup d'accouchements par voie basse sur un siège, à condition que le bébé soit pas trop gros et le bassin pas trop petit.
Voilà, il suffit juste d'avoir les bonnes dispositions.
Faire une échographie et un petit scanner et hop.
Julia disait à un moment donné, elle est tombée, elle sentait plus le bébé. Ça, c'est une des grandes questions que les femmes vous posent. Je le sens pas. Ça peut arriver que le bébé bouge pas aussi?
Ça peut arriver, mais il faut s'en inquiéter, il faut absolument... consulter aux urgences de sa maternité pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est vachement important de faire passer le message.
Même s'il n'y a rien, vaut mieux y aller pour rien.
Il vaut mieux y aller pour rien, ouais.
Il y a des obligations, des visites, on va dire, auxquelles on ne déroge pas à la règle pour la femme enceinte.
Et oui, c'est une visite mensuelle au moins.
Au moins,
tout au long de la grossesse et une consultation chez l'anesthésiste.
Et on le découvre dans votre livre pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, mais on est tranquille quand on travaille, on peut aller à nos rendez-vous tranquillement, l'esprit libre.
Exactement, c'est prévu par le code du travail. Et donc,
on ne nous le dit jamais ça.
Et non, et les femmes viennent en consultation à 8h du matin ou à 19h le soir parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas faire autrement.
C'est-à-dire qu'on dit à son patron qui est au courant de notre grossesse, j'ai un rendez-vous avec ma gynéco mercredi prochain et c'est tout.
Exactement, et nous on vous fait un certificat médical comme quoi vous étiez un rendez-vous obligatoire de la grossesse.
Non mais ça c'est fou, hein. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne nous dit pas quand on est enceinte. On ne nous dit pas non plus qu'on peut plus tard envisager de donner ses ovocytes par exemple, ça on en parle très peu.
Ah oui, ça c'est encore
un autre sujet.
Oui, c'est
bien,
un autre sujet. Mais oui.
Mais on devrait tout être au courant quand on vient d'avoir un enfant que plus tard on peut avoir ce projet-là aussi de donner ses ovocytes.
On peut avoir ce projet-là, oui, tout à fait. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait.
Ben oui, c'est ça. Heureusement que votre livre est là quand même. Hein.
Faut pas exagérer.
Ah ben, il répond quand même à beaucoup, beaucoup de questions, des
à
questions importantes,
disons.
Des questions futiles, mais qu'on peut se poser dans nos petites têtes parfois. Il se passe plein de choses hein, quand on est enceinte.
À plein.
Merci Julia d'être venue témoigner. Ce soir, on vous embrasse et on vous souhaite une excellente soirée dans la Loire. On se dit tout, c'est fini pour ce soir. Merci à tous d'être venus témoigner. Merci de nous avoir suivis, comme tous les soirs d'ailleurs. Merci pour votre fidélité. Et merci à Anna Roy. Merci d'être venue ce soir. Sage-femme, dis-moi tout. Je crois qu'il y a vraiment tout là. Hein. On a fait le tour.
Oui.
Mais c'est important pour vous qui êtes sage-femme, mais aussi maman. Vous avez dit à un moment donné, j'ai envie de transmettre aussi, j'ai envie de donner.
Oui, complètement. Et puis j'ai fait le guide que moi j'aurais eu envie de lire quand j'étais enceinte en fait. Des questions simples, pratiques, on va à l'essentiel et voilà.
Et surtout, on y va chronologiquement, c'est-à-dire de la première semaine, le premier moment de où on sait qu'on est enceinte, où on fait le test de grossesse.
Exactement, jusqu'au deuxième mois de l'enfant.
Jusqu'au deuxième mois, c'est ça qui est fort, parce que ça, c'est souvent ce qui nous manque dans les guides. On se dit, bon, ben ça y est, vous avez accouché.
C'est ça.
Bon courage. Merci beaucoup, Anna Roy. Le livre, c'est chez Le Duc Édition pour un accompagnement main dans la main. Quand on ne peut pas aller en rendez-vous, eh ben, on vient vous voir directement dans le livre. C'est beaucoup plus pratique. On se dit tout, ça continue demain. Demain, nous parlerons de la cinquantaine. Avoir 50 ans, c'est génial. Les enfants sont presque parti, c'est la belle vie. Et surtout, vous n'êtes pas vieux, vous êtes vintage. C'est ce que nous dira notre grand témoin, auteur du guide de la cinquantaine, Hervé Ansaume. Alors si vous avez 50 ans, si vous aimez ça, si vous adorez même, eh bien rendez-vous demain dès 20h.